Silence.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.redem.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien. Oh, on a récupéré Damien mes chéris. Ouais, ouais. En pleine forme en plus. Hein, vous êtes contents? Eh ben, moi aussi. On est tous contents de le revoir et de l'avoir avec nous. Bon, ben, j'espère que, hein, voilà, que ça, tout va bien se passer parce que alors, les retrouvailles, hein, chouette. Mais on n'a rien bu, je jure, hein, pour les retrouvailles, rien du tout. Après, peut-être, on verra. Mais là, rien. Bon, ben, je vais commencer. Oh, ben, c'est pas, bon, c'est pas quelque chose de joyeux. Je vais commencer par... je voulais parler d'un acteur, metteur en scène, comédien de théâtre français, André Wilms, il s'appelle. Alors, en fait, André Wilms, c'est un visage familier du cinéma français. Mais bon, par contre, c'est vrai qu'on peut ne pas avoir retenu son nom, mais on l'a vu de toute façon. Alors, il est décédé le 9 février 2022. Il avait 74 ans. Dommage, parce qu'il aurait pu encore faire de jolies choses au cinéma et surtout au théâtre, d'ailleurs. On dit de lui qu'il promenait une élégance décalée. Je trouvais la phrase assez jolie, je l'ai notée. En fait, alors, il parlait de sa marginalité, entre guillemets, bien sûr. Hein. Il en parlait assez fréquemment, et voilà, tout à fait. Alors, il disait qu'il n'arrivait pas à se décider... pour savoir si sa marginalité était subie ou si elle était revendiquée. Voilà ce qu'il nous disait dans les interviews. Et j'ai écouté pas mal d'interviews de lui, enfin 3-4. Voilà, et ma foi... Alors, très très tôt, il a beaucoup fréquenté les circuits art et essai. Voilà, et les circuits commerciaux d'ailleurs aussi. Et il a vu très très jeune une très grande quantité de films. Donc voilà, c'était vraiment, c'était ce qui l'attendait, quoi, hein, c'est sûr. Et il était amoureux de la nouvelle vague. Hein, et il dit qu'il aurait adoré tourner avec Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, je rappelle, hein, aujourd'hui il est toujours vivant. Il a 91 ans, Jean-Luc Godard. On regrette hein, qu'il ne puisse plus faire de réalisation. Ce serait bien encore. Ah, encore un Jean-Luc Godard. Ce serait un vrai plaisir. En tout cas, lui, il aurait voulu. Voilà, il aurait voulu pouvoir tourner avec lui. Alors, il était le comédien fétiche d'un réalisateur finlandais, qui est scénariste et producteur, qui s'appelle Aki Korimaki. Korismaki, pardon. Oh là là, Korismaki. Aki, bah ça y est, ça commence. Je commence à être un peu émue. Korismaki, toi, tu le connais, Damien, hein? Aki Korismaki.
Non, oui, oui.
Enfin, tu connais le nom. Tu connais le nom. On ne le connaît pas beaucoup, beaucoup, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a vu certains de ses films, mais pas tellement en France. Par contre, André Wilms, c'était très, très ami avec lui. Et c'était vraiment le comédien qu'il a choisi dès le départ, Aki Korismaki, et il l'a jamais laissé quoi. Il a tourné dans de nombreux films de ce réalisateur. Alors il est en fait, on va bientôt. D'ailleurs, si on veut, enfin si vous aimez, si mes chéris, si quelques-uns connaissent André Wilms et aiment cet acteur. On peut le retrouver dans un film qui est en DVD actuellement, qui s'appelle Le Havre. C'est un film sur les migrants. Et c'est une comédie dramatique, c'est un film finno-franco-allemand de Aki, Coris Maki, justement. Donc on peut le retrouver dans ce film, il a un très très beau rôle. Ce film a quand même été sélectionné au Festival de Cannes 2011. Il a été salué par la critique et par le public et il a reçu un très beau prix, le prix Louis Deluc. Alors il avait. Coris Maki avait prévu une trilogie en fait. Sur les migrants. Alors, il a réalisé un deuxième volet, justement, sur les migrants, qui est sorti en 2017 et qui s'appelle L'autre côté de l'espoir. Et puis, pour le troisième, eh bien non, ça ne s'est pas fait parce que il a décidé d'arrêter le cinéma, Coris Maki. Il a pris sa retraite, en quelque sorte, juste après le deuxième volet. Bon, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, dans le film Le Havre, on a aussi Jean-Pierre Darroussin. Et puis on a Kati Outinen. Alors Kati Outinen, c'était dans la vie, c'est l'épouse de Aki, Coris Maki. Ils sont ensemble depuis très longtemps et c'est évidemment sa comédienne. Elle est pratiquement dans tous ses films. Beaucoup de talent. Alors il faisait partie, André Wyms, en fait, de ces comédiens à la carrière très très conséquente en fait, mais pas forcément familier au grand public. C'est ça, surtout. Son nom n'était pas forcément familier. C'est ce que je dis souvent, hein, quand on des acteurs qui sont très doués, dont on ne retient pas trop le nom, je vous le dis souvent, quand vous le verrez, si vous êtes habitué à aller au cinéma, vous le reconnaîtrez. Ben, c'est ça aussi, là, concernant André Wyms. Mais par contre, son visage est connu. Voilà. On retient peut-être pas son nom, mais son visage est connu. Alors, on l'a vu. Alors, là, ça a été d'ailleurs, ça a été, il a été, ça a été quasiment son heure de gloire cinématographique, si on peut dire, en 1988, quand on l'a vu dans une joyeuse parodie qui s'appelle La vie est un long fleuve tranquille. C'était le film culte d'Étienne Chatillez. Et lui, André Wyms, c'était le père de famille bourgeois. La fameuse famille bourgeoise, le Quesnoy, puisqu'il y avait la famille framboise d'un côté, un petit peu le peuple, le petit peuple, bon, des gens qui pas trop de moyens, mais qui se débrouillaient, voilà, comme ça. Et puis il y avait en face les bourgeois, les Le Quesnoy. Eh bien, lui, c'était Jean Le Quesnoy, le père de famille. Ce film a eu un succès énorme, et lui aussi d'ailleurs. Il y a eu 7 nominations aux Oscars, 4 statuettes, enfin bref, un très très grand film. Et puis on pourra le retrouver bientôt, on en parlera ici sur Radio Entre-deux-Mers du film Maigret qui va sortir donc le 23 février, bientôt.
Avec Gérard Depardieu.
Tout à fait, dans le rôle titre Gérard Depardieu de Patrice Lecomte. Et dans ce film, André Wyms a une scène formidable. Il est dans une scène formidable de ce film. Ben, j'en dis pas plus, hein. Moi je l'ai vu cette scène justement. Et on va le retrouver, André Wyms. Voilà. C'est bien qu'il ait pu quand même, une dernière fois comme ça, assister, enfin, faire partie d'un tournage. André Wyms, voilà. Eh bien, bah oui, c'est toujours un peu triste, des gens de talent comme ça qui disparaissent. Et puis, on est désolé pour sa famille aussi, bien sûr. Ils doivent avoir gros sur le cœur quand même.
Oui. Et donc, voilà. Pensée pour André Wyms.
Et oui, André Wyms, oui. Oui, juste un mot sur les Césars. Bah, c'est bientôt les Césars.
Dont les nommés sont sortis, la liste
voilà,
des nommés est sortie.
Les Césars 2022. Alors, la 47e édition, c'est ça, aura lieu le 25 pardon, février, ça se rapproche, hein, absolument. Ça se passe à l'Olympia et elle sera présidée par Daniel Thompson. Et puis il y a de nouveau Antoine Decaune qui sera maître de cérémonie. Alors les films qui ont obtenu le plus de nominations, c'est Illusion perdue, 15 nominations quand même, ils partent en tête, hein. Annette, 11 nominations. Aline, 10 nominations. Et puis on a, alors Aline, Annette, il y a Bac Nord aussi de Cédric Jiménez, il y a L'événement de Audrey Diwan, il y a La fracture de Catherine Corsini, il y a Boîte noire aussi de Yann Gozlan. Avec Pierre Niney. Voilà, donc, moi, c'était juste pour donner comme ça, hein, quelques titres. Alors, il y a une petite chose un peu étonnante quand même pour cette 47e édition des Césars, c'est que, et pour les fans d'Alexandre Astier, qui vont certainement, qui vont réagir peut-être, qui ne doivent pas être trop contents, parce que le plus gros succès français de l'année 2021, c'est Kaamelott, premier volet, et il n'est pas cité. Donc, pour le moment, voilà. Donc, on verra ça. Bon, ma foi. Ah, c'est pour les fans, surtout. Oui.
Après, le problème de ces concours, c'est que souvent, ce n'est pas forcément le public qui fait les nominés, c'est les maisons de production. Et du coup, c'est un peu de l'entre-soi.
C'est tout à fait
comme
ça.
Alors, pour les Victoires de la musique la semaine dernière.
Exactement, comme les Victoires de la musique. Exactement. Ben, on va mettre que Kaamelott, snobé, c'est le snobé des Césars, voilà. Snobé des Césars, c'est un peu ça quand même, hein, finalement. Parce que quand même, 26 millions d'entrées. Bon, de toute façon, pour le film, de toute façon, Alexandre Astier va décrocher le trophée du film français qui sera remis, qui a été remis, pardon, au 29e trophée du film français. Il a été remis, hein, ce trophée, le 1er février. Il a eu ça quand même, hein, pour sa performance. Bon, mais quand même, hein. On est un peu, bon, dubitatif, je dirais. Bon, bah, écoutez, de toute façon, Alexandre Astier va continuer. Il va nous faire le deuxième volet, il va continuer à travailler, il fait du très bon boulot. On les aime tous, les acteurs, là, hein. Anne Girouard, Lionel Astier, tout ça, Audrey Fleuriot. Tiens, je ne savais pas, un petit potin, mais tout le monde le sait, donc ce n'est pas vraiment un potin. Anne Girouard, là, qui joue le rôle de Guenièvre, hein, dans le
Kaamelott.
Dans Kaamelott, est la compagne de Vincent Elbaz. Cet acteur qu'on aime beaucoup, qui a beaucoup de talent aussi. Eh bien, moi, je ne le savais pas, dites donc. Voilà quelque chose que j'ai appris. Et puis Lionel Astier, mais si, ça, on le sait que c'est le père d'Alexandre Astier. Et de Simon Astier, d'ailleurs, aussi. Voilà. Et puis, il y a Joëlle Sevilla, aussi, formidable, qui est la mère d'Alexandre Astier, et qui est dans la série et dans le film. C'est chouette, finalement, une famille d'artistes. Ce sont des artistes depuis toujours. Chez les Astier, c'est comme ça, et qui travaillent ensemble, je trouve ça assez chouette quand même. Surtout qu'ils ont tous beaucoup de talent, ils ont tout ça. C'est un plaisir, quoi. Voilà.
Très bien, donc, pour les Césars 2022. Et maintenant, nous allons débuter avec les sorties de films de cette semaine. Et on va commencer avec un film d'animation qui s'appelle Hooper et le hamster des ténèbres. Et on écoute la bande-annonce tout de suite.
J'allais te le demander, merci.
Alors.
C'est quoi ça? Ça vient de là.
Depuis le jour où mon père m'a adopté, je me suis entraînée pour devenir un grand aventurier. Comme lui.
Premier candidat, Hopper Chickenson.
Hopper Chickenson? C'est quoi ce nom? Au fait, moi, c'est Meg.
Pourquoi je suis pas comme tout le monde?
Les choses qui nous rendent différents sont celles
qui nous rendent exceptionnels. Archie, tu sais que j'ai toujours rêvé d'aventure. Nous allons découvrir le plus fabuleux trésor de tous les temps.
Oui, c'est lequel déjà?
Celui qui veut accéder au temple du hamster des ténèbres devra triompher de 3 épreuves mortelles.
Pourquoi toujours 3? Pourquoi c'est jamais 2 épreuves mortelles?
Attention! Plus vite!
C'est parti!
Oh non!
Non!
Hein? Hopper Chickenson, tu bouges comme personne!
Hopper et le hamster des ténèbres, ça sort au cinéma aujourd'hui et c'est pour les enfants à partir de 6-7 ans.
J'ai appelé ma petite copine Naya, d'ailleurs, pour qu'elle emmène son frère, tout ça, qu'elle embarque tout le monde. Oui. Mais c'est mignon, c'est joli comme tout. Alors, c'est de l'aventure, hein, y a de la comédie, c'est pour toute la famille. C'est belge et français. Alors, c'est une co-réalisation. Il y a Ben Stassen, d'un côté, réalisateur, producteur, scénariste belge. Il a 24 ans de carrière, 22 tournages pour lui et 11 nominations. Et il travaille avec Benjamin Mousquet. qui est un réalisateur responsable. Layout, alors responsable Layout, c'est la Layout, c'est disposition, c'est la mise en page, enfin voilà, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Il est créateur graphique et il a créé les personnages et il crée des personnages. Il est auteur musical aussi. Et il est français, Benjamin Mousquet. Et puis, ils ont travaillé quand même avec deux scénaristes, deux auteurs qui sont très doués et qui sont très connus dans le métier. C'est Dave Collard, scénariste, créateur français, et Chris Gwynne, qui est un auteur américain. Ils étaient quatre à participer à ce film d'animation. Alors, bienvenue au royaume de Plume Barbe. Le jeune Hopper Chickenson est le fils adoptif du roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi-poulet, mi-lapin, notre jeune héros, hein, il est mi-poulet, mi-lapin, voilà, est lui-même obsédé par l'aventure. Mais sa maladresse lui joue souvent des tours. Lorsque Harold, le frère du roi Arthur, s'échappe de prison pour trouver le sceptre du hamster des ténèbres et renverser son frère, Hopper décide de se lancer à sa poursuite. Avec l'aide de son fidèle serviteur Archie, une tortue sarcastique, et de Meg, une mouflette experte en arts martiaux, il se lance dans une aventure épique. Ensemble, ce trio hilarant fera face à de multiples obstacles et Hopper tentera d'accepter ses différences pour devenir l'aventurier ultime. Avec son histoire pleine d'humour, d'action et de décors épiques, Hopper et le hamster des ténèbres est le film d'animation d'aventure idéal pour toute la famille. J'ai l'impression d'être un crieur de rue comme ça et d'annoncer à tout le monde qu'il y a un film pour la famille. Et alors, il y a quelque chose de très beau dans ce film. Il y a une citation, il y a un truc que j'ai entendu que je trouve très beau. On est tous nés avec quelque chose de différent. Mais on peut décider que tout ce qui nous rend différents nous rend aussi exceptionnels. Et ça, c'est dit par un des personnages dans le film. C'est bien pour les enfants qu'ils entendent ce genre de phrase, que la différence peut devenir une exception. Je trouvais ça très joli.
C'est très très bien, oui, comme un message pour les enfants.
Ah oui, tout à fait. Et bien, même pour les adultes, en fait. Hein. Oui. 1h31, voilà celui-ci.
Hopper et le...
et le hamster des ténèbres.
Et le hamster des ténèbres.
C'est un sacré titre.
Avec un autre film qui est pour le jeune public, pour toute la famille.
Oh, la famille.
Ça s'appelle King.
King, oui. C'est un film d'aventure français qui dure 1h40. Et c'est David Moreau qui s'y est collé. C'est un réalisateur, scénariste, coproducteur français. Il a 45 ans, 18 ans de carrière, 6 tournages pour lui. Alors, on lui doit par exemple un film qui était terrible. C'était un thriller qui est sorti en 2006, qui s'intitulait Il au pluriel, ILS, inspiré de faits réels en plus. Moi, je peux pas dire que j'ai eu le bonheur de le voir. J'ai eu le malheur de le voir à un moment donné, je sais plus quand. Est-ce qu'il est passé sur une chaîne cinéma ou je ne sais plus. En tout cas, je ne l'ai pas en DVD, c'est clair, parce que jamais, jamais je n'achèterai le DVD. Par contre, il est très, très bien fait. Mais il est terrible. Moi, j'ai eu les chocottes du début à la fin avec deux acteurs formidables. Il y avait Olivia Bonamy et Michael Cohen. Hein. Et j'ai noté que c'était quand même un film effrayant. Alors, pour vous, mes chéris, qui aimaient les films un petit peu comme ça, bah, qui du début à la fin prennent les tripes quand même, hein. Bah, il est pour vous, il, au pluriel. Et sorti en 2006, et vous pouvez le trouver en DVD quand même, hein, de toute façon. Il y avait celui-là. Et puis en 2013, on lui doit 20 ans d'écart. Alors c'est le qui a eu un prix et 4 nominations, dont d'ailleurs le Swan d'or du meilleur acteur pour Pierre Niney, qui a le rôle principal. Et il y a Virginie Efira aussi dans ce film. C'est l'histoire d'une dame qui a 35 ans et qui va tomber amoureuse d'un monsieur qui a à peine 20 ans. Mmh. Donc voilà, c'est donc... 20 ans d'écart, mais c'est un très très joli film, hein, parce qu'avec des acteurs comme Pierre Niney, Virginie Efira, quand même. Alors, là, on parle de King, ben, c'est qui King? Où c'est qui? Est-ce que tu sais toi Damien qui est King?
C'est un petit lion.
Oui, C'est un lionceau, carrément un lionceau, dès le départ. Il est destiné, King, ce lionceau, à un trafic. Alors, il s'échappe de l'aéroport et il se réfugie dans la maison d'Inès, qui a 12 ans, et Alex, son frère, qui a 15 ans. Le frère et la sœur ont alors l'idée folle de le ramener chez lui, en Afrique. Mais la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque Max, qui est un grand-père, c'est leur grand-père, mais qui est très fantasque, qui est un petit peu fou comme ça. Max, extrêmement sympathique, mais alors, poum, 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 il part dans tous les sens. Alors, lorsque le grand-père, qu'ils n'ont vu que deux fois dans leur vie, se joint à l'aventure, tout devient possible. Surtout quand on sait que c'est Gérard Darmon qui joue le rôle du grand-père fantasque. Il est assez époustouflant, là, quand même. Enfin, on le connaît, il a beaucoup de talent, mais enfin, bon, là, quand même, franchement, il s'y est donné à fond. On sent que là, il a pris le rôle à bras-le-corps. Alors, on a, dans le rôle d'Inès, qui est une petite actrice belge, je dis petite parce qu'elle a quand même, elle a 12 ans, elle a l'âge à peu près du rôle, et elle a déjà 6 ans de carrière, cette petite. Et elle a déjà à son actif 14 tournages. Elle s'appelle Lou Lambrecht. Alors, Lou Lambrecht, donc, c'est une actrice belge. Inès. Ah oui, elle a un sacré palmarès quand même, déjà. Et puis, on a Alex, son frère, qui a 15 ans dans l'histoire. C'est Léo Lorléache, qui est un acteur français. Alors, lui, il a 8 ans de carrière et 12 tournages à son actif. Ce sont des enfants qui ont commencé tout petits. Voilà, ils sont tombés dans le cinéma tout petits. On a Thibaut de Montalembert. Alors, Thibaut de Montalembert, vous le connaissez parce que vous avez au moins vu une fois 10%, qui était une série qui a eu beaucoup de succès entre 2015 et 2020. Oh, vous avez dû en voir au moins un ou deux, je suppose, 10%. Il est là, lui, il est dedans. Il a énormément de talent, Thibaut de Montalembert. Bon, c'est pour vous le situer un peu physiquement. Puis on a Laurence Facelina, on a Clémentine Baert, on a Artus, on le connaît Artus, l'humoriste. Et oui, il s'est lancé dans le cinéma depuis un bon moment, lui déjà. Ce n'est pas son premier rôle. Et puis voilà, donc dans les rôles principaux. Et on nous dit, cet hiver, partez à l'aventure et souvenez-vous de son nom, King. C'est très joli parce que le lionceau, évidemment, est adorable, absolument. Les enfants aussi. Bon, tout le monde est très chouette dans ce film. C'est un bon film pour la famille, je trouve, quand même, à voir. Si on aime les animaux, bien sûr. Et si on a très peur des douaniers, bien sûr.
Et on écoute ça.
Pourquoi tu m'attends pas ?
Ici, la traque est toujours en cours pour retrouver l'animal qui aurait été vu dans les environs après s'être échappé de l'aéroport d'Orly.
Cet animal est sauvage, cet animal est dangereux. Surtout, ne l'approchez pas.
Alors, comment je vais t'appeler ? Qu'est-ce que tu penses de King ? Sors de ma chambre.
De quoi tout le monde le vient ?
On va aller voir mon grand-père, je suis sûre qu'il pourra nous aider.
Nous aider à quoi ?
Là, elle est en Afrique.
Elle est complètement tarée, on est d'accord.
Il a fait 10 fois le tour du monde, il saura quoi faire. Max, j'ai besoin de votre aide.
Qui c'est, King ?
C'est notre lion.
C'est un vrai.
On le ramène chez lui.
Tu sais que dans 2 mois, il fera le double de sa taille et de son poids.
Parce qu'un lion, même apprivoisé, ça reste un lion.
Attrapez-la !
On devrait pas tarder à les retrouver.
Accélère ! Tu vas nous ralentir !
Moi, je vais vous ralentir.
Attention !
Est-ce que tu sais ce qu'ils vont lui faire s'ils l'attrapent ?
Yeah ! Si tu me vois pas à côté, je serai toujours avec toi, toujours.
Et voilà de quoi donner de la force à tous les adolescents. King, ah oui. Et vos rêves deviennent possibles.
Moi, je vais vous ralentir, nous dit Gérard Darmon dans son camping-car, qui fonce à toute allure.
C'est ça.
J'aime beaucoup ça.
Et nous allons continuer maintenant avec une comédie, une comédie chorale, comme on dit,
oui.
Avec un grand nombre d'acteurs, tous plus connus les uns que les autres. Ça s'appelle Maison de retraite.
Oui, en ce moment, on en parle beaucoup d'ailleurs
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Mais pas d'une façon très sympathique. Là, c'est beaucoup plus sympathique quand même. Alors, Maison de retraite, oui, c'est Thomas Gilloux qui a réalisé ce film.
Alors, on le connaît, Thomas Gilloux.
Oui, Thomas Gilloux, oui, réalisateur, scénariste, acteur français, il a 67 ans, 42 ans de carrière, 21 tournages, un prix, 8 nominations. Il a eu, évidemment, on le connaît, il a eu le prix du public en 1997 pour La vérité, si...
Je mens.
Voilà, La vérité, si je mens. Mais oui, c'était quand même... Alors bon, il a eu des récompenses au Festival international du film de comédie d'Alpe d'Huez, bien sûr, avec tous ses films. Après, et malheureusement, d'ailleurs, dans La vérité, si je mens, il y avait un acteur humoriste regretté, Élie Kakou. Mm-hmm. Alors le film est sorti en 1997 et Élie Kakou... est décédé en 1999, lui. Eh oui. Et il fait un numéro assez extraordinaire dans le film. Son numéro d'amoureux, là, qui veut absolument un enfant et qui va prendre la jeune femme parce qu'elle a un enfant, voilà, pour l'élever comme si c'était le sien. Il nous fait des trucs pas mal du tout. Il avait beaucoup de talent, hein. Kakou. Et puis après, alors il y avait en 2001, il y a eu La vérité, si je mens, 2, hein, qui a eu une nomination film de clôture. En 2011, on remet ça à La vérité, si je mens, 3. Mais entre les deux, il y avait eu en 2007 Michou d'Aubert. C'est un film que j'aime beaucoup, moi. Michou d'Aubert, avec une nomination au Festival du film Jeune Public, Pierrot Gourmand. En 2007, il y avait Gérard Depardieu, Nathalie Baye dans les rôles principaux. Et c'était... Michou d'Aubert, j'aime beaucoup. Hein. Je l'ai en DVD, j'avoue, parce que de temps en temps, j'aime bien regarder le couple Depardieu et Nathalie Baye, pas mal du tout, avec l'enfant au milieu. Là. Quand elle le teint en blond pour qu'il apparaisse vraiment européen, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce petit bonhomme qui a les cheveux blonds, mais un blond quand même assez... assez blond parce que il y a le racisme autour là, il y a qui rôde autour et que on voudrait que l'enfant paraisse plus européen que voilà. Donc c'est en même temps Michou d'Aubert ça pose des questions quand même, hein. C'est un film c'est une comédie mais en même temps quand même on se demande pourquoi il faut teindre un petit garçon en blond pour ne pas qu'il apparaisse en brun et trop typé. C'est quand même quelque chose d'assez terrible. Michou d'Aubert. Alors, Maison de retraite. Dites donc, il y a quand même 3 nominations au Festival international du film de comédie d'Alpe d'Huez. Justement, j'en parlais parce que Thomas Gilloux est abonné à ce festival puisqu'à chaque fois, il a un prix, lui. Alors là, c'est 3 nominations en 2022. Il y a le prix spécial jury, le grand prix OCS et le prix du public Allociné. C'est une joyeuse comédie. Alors c'est quoi, Maison de retraite ? Afin d'éviter la case prison, Milan, 30 ans, est contraint d'effectuer 300 heures de TIG, c'est-à-dire travaux d'intérêt général. Mais il doit quand même effectuer ce TIG dans une maison de retraite, les Mimosas. Quand on lui annonce, évidemment, il est quand même très surpris, pour ne pas dire déçu. Ses premières semaines sont un véritable enfer, mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de 7 inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie. Au fil des semaines, Milan découvre que l'établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d'organiser une grande évasion, mais il n'est pas au bout de ses peines. Décidément, et là on parle d'arnaque. Alors dans le rôle de Milan, on a Kev Adams, le chouchou de ces demoiselles, Kev Adams. Et puis on a Gérard Depardieu, on a Daniel Prévost, tu disais tout à l'heure, hein, casting prestigieux, Mylène de Mongeau, Manda Touré, Jean-Luc Bidault, Marthe Villalonga, Liliane Rovert, pardon, Antoine Duléry, qu'est-ce qu'il y a, Firmin Richard, Jarry, etc., etc., etc. On ne peut pas tous les nommer. Mais oui, tu avais raison, c'est un casting quand même assez fortiche quand même. Là, Thomas Gilou, il ne s'est pas privé. Hein. Il les a tous appelés et ils ont tous répondu « présent ». Ce qui n'est pas étonnant. Parce que Thomas Gilou, il réalise des films qui marchent très bien, voilà, qui sont joyeux en même temps. Puis il y a un tas de trucs, il n'y a pas que ça. Il y a aussi souvent il y a des petits drames, il y a des histoires d'amour dans ces films. Enfin, il y a un peu de tout. Tout le monde s'y retrouve, plus ou moins. Voilà, maison de retraite.
Maison de retraite, allez, on écoute la bande-annonce.
Ça va, on s'en sort bien.
Dans une maison de retraite.
Franchement, je préfère la prison.
Bienvenue au Mimosa.
Votre mission ici, c'est de donner un coup de main à tout le monde, de l'aide-soignant à la femme de ménage.
Là, c'est Alfred de Gonzague, et lui, il a Alzheimer.
Alfred.
Enchanté, Milan.
Ferme ta bouche, je te la ferme.
Elle, c'est Thérèse, Émeric et Jean-Nicole.
Ça fait des années qu'on m'a pas gratté le dos.
J'essaye. Ah,
arrêtez.
Moi, c'est Alfred.
Mais quel con, celui-là. Ma mère.
Hé, je vous entends, hein.
Ah ben, il manquerait plus que tu sois sourd, ma grande.
Je peux plus travailler ici. C'est un enfer.
Tu sais ce que disait Groucho Marx ?
Non.
Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé.
Le petit s'est fait casser la gueule hier soir.
C'est un petit con, bien fait pour lui.
Non, faut l'aider. Il est orphelin, comme nous.
Je vous revaudrai ça.
Arrête de croire que quand les gens font quelque chose, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose en retour.
Tu sais qu'il est ta plus grande force, Milan. Ta douleur, là.
Gauche-droite, voilà.
Il n'y a pas de super-héros sans moment sombre.
T'as compris ? Oui, chef. Vous êtes en train de me dire qu'ils ne sortent jamais de la maison de retraite ?
Oui, bah écoute, c'est comme ça, c'est les règles. Et puis nous, on suit les règles.
Je dois les aider.
Voilà, maison de retraite, donc, ouais. Avec tout un tas d'acteurs.
Oui, pas de prise de tête, hein. C'est, ça détend, mais en même temps, il y a des petits questionnements quand même par moment.
C'est ça.
Le fait qu'ils ne sortent jamais, le fait qu'ils soient raquettés en quelque sorte,
ah oui,
c'est quand même pas très joli.
C'est gentil, mais on parle du milieu des maisons de retraite qui n'est pas très florissant.
Bah surtout avec ce qui se passe en ce moment, justement, concernant les maisons de retraite, les EHPAD.
On entend bien. Et nous allons continuer avec un autre film
oui.
qui parle d'actualité, de ce qui se passe aussi régulièrement.
Oui.
C'est un film de Stéphane Brisé qui s'appelle Un autre monde. Et c'est le troisième d'une série de films sociaux de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon.
Tout à fait, on le connaît, hein, on le connaît, Stéphane Brisé, c'est pareil. Un autre monde, bah, c'est un drame français d'1h36. Alors, il a 3 nominations à la Mostra de Venise 2021. Lion d'or, meilleur scénario et prix spécial du jury. Stéphane Brisé, réalisateur, pardon, c'est ma voix qui me quitte, réalisateur scénariste français. Il a 55 ans, 28 ans de carrière et 15 tournages pour lui, 2 prix, 32 nominations. Alors en 2010, il avait eu le César de la meilleure adaptation pour le film Mademoiselle Chambon, avec Sandrine Kiberlin et Vincent Lindon, qui est son acteur fétiche, on peut le dire quand même, hein, Vincent Lindon. Et puis, auparavant, avant Mademoiselle Chambon, il y avait eu également Quelques heures de printemps, 2012, avec Hélène Vincent et Vincent Lindon. C'est l'histoire d'un fils qui retourne chez sa mère, qui est condamné par la maladie. Hein, Quelques heures de printemps. Et puis, ah oui, avant, il y avait eu aussi en 2004 Je ne suis pas là pour être aimé, avec Anne Consigny et Patrick Chenet. Ça, c'est le film de mon cœur. C'est un de mes films préférés que j'ai en DVD. J'en parle quelquefois parce qu'il est magnifique. Et puis, en 2015, on avait... Alors, celui-là aussi, quand même, oui, La loi du marché, avec Vincent Lindon, Karine Demerbeck. Et toujours Vincent Lindon, hein, c'est l'histoire d'un chômeur de 50 ans qui trouve un emploi. Mais la question qui se pose... Est-ce que pour ne plus être au chômage, est-ce qu'on doit tout accepter par rapport à le travail qu'on vient de trouver ? Un film assez extraordinaire. Vincent Lindon, évidemment, plus vrai que vrai là-dedans, comme d'habitude. Et là, un autre monde. Alors, c'est quoi ? Nous avons un cadre d'entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l'un font basculer la vie de tous. Philippe Lemel et sa femme se séparent. Un amour abîmé par la pression du travail. Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd'hui exécutant. Il est à l'instant où il lui faut décider du sens de sa vie. Alors on a Vincent Lindon, bien sûr, dans le rôle principal, le rôle de Philippe. Sandrine Kiberlin, qui est Anne, son épouse. On a Anthony Bajon, qui est Lucas, leur fils. On a Marie Drucker dans ce film. Guillaume Drault, Christophe Rossignon, Olivier Lemaire II, Sarah Laurent dans les rôles principaux. C'est un, comme d'habitude, ce que fait Stéphane Brisé. C'est extrêmement intéressant. Il y a un casting. Il n'y a rien à dire sur le casting. Il est parfait pour ce genre de cinéma. Alors, en fait, Stéphane Brisé, avec ce film, a voulu rendre compte des conséquences du travail de ceux qui sont considérés comme le bras armé de l'entreprise, mais qui sont simplement des individus pris entre le marteau et l'enclume. Il nous dit que le film met en scène la perte de sens de la vie d'un cadre d'entreprise qui, en même temps que son mariage s'effondre, a de plus en plus de difficultés à trouver de la cohérence dans un système qu'il sert pourtant depuis des années. Un système dans lequel il devient extrêmement compliqué d'appliquer vers le bas des injonctions venues d'en haut. De nombreux cadres nous ont raconté. À moi, dit-il, nous dit le réalisateur, et à son co-scénariste Olivier Gorce, donc ces cadres nous ont raconté une vie personnelle et professionnelle à laquelle ils parviennent de moins en moins à donner de sens parce qu'on ne leur demande plus notamment de réfléchir, mais simplement d'exécuter. C'est quand même... C'est un film à voir, mes chéris, ça, vraiment. De toute façon... Si vous aimez Vincent Lindon, si vous aimez Stéphane Brisé, son cinéma en tout cas, il faut pas rater celui-là, Un autre monde. C'est certain. C'est le film à voir là, maintenant. Voilà.
Un autre monde de Stéphane Brisé. Oui. On écoute la bande-annonce.
Oui, merci.
Monsieur a déjà accepté le divorce. On ne peut pas, du coup, tout lui imposer et il ne peut pas tout accepter.
C'est la même chose pour ma cliente. Son quotidien est devenu un enfer.
Elle vous a dit que moi, je lui faisais vivre un enfer ?
À l'époque, j'ai pas signé pour que tu ramènes tous tes problèmes à la maison. C'était pas ça, le deal.
On me demande de me séparer de 58 personnes et là, tu m'en donnes 30. Moi, je t'explique. S'il faut que je sacrifie 58 personnes pour en sauver 500, je vais en sacrifier 58.
On est à 6 semaines de l'annonce du plan au marché, donc je pense que vous avez aussi eu quand même pas mal de temps. Comment ça se présente ?
Comment on va gérer une contradiction qui va sauter aux yeux de tout le monde ? Un nouveau plan d'économie dans un contexte où l'entreprise est bénéficiaire ?
Tu poses une question à laquelle le groupe ne nous a pas demandé ni de répondre, ni de réfléchir.
Je voulais vous rassurer par rapport à votre fils. On va le garder quelques jours pour comprendre ce qui s'est passé. Il a insulté son professeur, mais il l'a aussi menacé avec un compas.
Je flippe pour après, je sais pas ce qui va m'arriver après, je sais pas.
Ça fait 8 jours que je vous demande de plancher là-dessus. Moi, j'ai rendez-vous avec la direction générale, j'ai un retour à faire, j'ai rien.
Autant vous le dire tout de suite, je suis extrêmement déçue par votre manière de procéder.
Je t'ai dit, ça allait être compliqué tant que le groupe Elson n'atteint pas ses objectifs.
Alors moi, je dépends du groupe Elson. Je suis mariée avec Elson, moi.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent, qui se contredisent et sans se dénoncer.
J'aime les... Il y a une stratégie dans cette entreprise,
oui,
on s'y tient.
Une stratégie qui ferait basculer nos collaborateurs à la précarité, on s'y tient quand même.
J'aime les gens qui passent.
Je vais avoir 50 balais, quoi. J'ai plus d'années derrière moi que devant moi, c'est vrai, quoi. Je deviens quoi, moi, là-dedans, alors ?
Voici un autre monde de Stéphane Brisé, film social.
Sandrine Kiberlain, magnifique aussi. Hein. On a reconnu sa voix, là. En fait, c'est une sorte de trilogie, ce film, parce qu'il est le troisième, celui-là. Il y a eu, La loi du marché, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, en 2015. Et il y a eu le En guerre aussi, en 2018. C'était l'annonce d'un plan social. Il y avait Vincent Lindon encore, bien sûr, Mélanie Rover aussi dans ce film. Et donc, c'est une sorte de trilogie, puisque ce film raconte l'histoire d'une entreprise juste avant les licenciements. C'est poignant, c'est un film à voir quand même, hein, vraiment. Un petit coup de cœur, parce que là, il y a une, en plus, il y a une interprétation des rôles principaux qui est, comment on peut dire ça ? C'est une interprétation éblouissante. Ouais, ouais.
Un autre monde, et on continue maintenant avec Uncharted.
Oui, Uncharted. Ah ben oui, ça c'est de l'aventure, c'est de l'action, c'est américain. Et c'est de Ruben Fleischer, qui est un réalisateur-producteur américain. Il a 47 ans, il a 20 ans de carrière, 28 tournages à son actif. Et il travaille avec des scénaristes aussi très connus là-bas aux États-Unis, auteurs et scénaristes. Il y a Art Markum et il y a Matt Holloway, qui ont travaillé sur ce film avec lui. Ben, on peut le resituer quand même, Ruben Fleischer. Ben, en 2009, par exemple, on lui doit Bienvenue à Zombieland. Zombieland, c'est une sorte de... c'est quoi ? C'est un film d'action, mais d'horreur un petit peu quand même aussi, hein, Zombieland, qui est sorti en DVD en 2010, pour ceux que ça peut intéresser. Et c'était quand même avec Woody Harrelson dans les rôles principaux. Il y avait Emma Stone aussi, deux grands acteurs quand même. C'est une réussite, hein, très très primée, Bienvenue à Zombieland. Et en 2019, on a eu Retour à Zombieland. On en a parlé ici, de Retour à Zombieland à Radio Entre Deux Mers. Ce sont les mêmes acteurs, les mêmes actrices d'ailleurs. Et il est sorti, celui-là est sorti là en DVD déjà, Retour à Zombieland. Et ben, il est sorti en 2020 d'ailleurs, ouais, c'est ça, un an après la sortie au cinéma. Alors Ruben Fleischer, il a également réalisé des séries télévisées américaines, hein, beaucoup, beaucoup de séries. Alors Uncharted, ben, c'est l'histoire de Nathan Drake, qui est un voleur astucieux et intrépide, et qui est recruté par le chasseur de trésors chevronné, Victor Sullivan, appelé Sully, pour retrouver la fortune de Ferdinand Magellan, une fortune disparue il y a 500 ans. Quand même, ce qui ressemble d'abord à un simple casse devient finalement une course effrénée autour du globe pour s'emparer du trésor avant l'impitoyable Moncada. Celui-ci est persuadé que sa famille est l'héritière légitime de cette fortune. Si Nathan et Sully réussissent à déchiffrer les indices et à résoudre l'un des plus anciens mystères du monde, ils pourraient rafler la somme, attention, de 5 milliards de dollars et peut-être même retrouver le frère de Nathan, disparu depuis longtemps. Mais encore faudrait-il qu'ils apprennent à travailler ensemble, together, ensemble, eh oui, ça c'est important. Alors, pour les fans d'aventure, pour les fans aussi, on fait le tour du globe, hein, on fait le tour du monde dans ce film, hein, on voit un tas de paysages, un tas de pays. Alors pour les fans, ben voilà, hein, vous allez voir, vous pourrez voir Uncharted, il y a Tom Holland qui a le rôle principal, oh, ben on le connaît quand même, Spider-Man. Voilà. Ah ben au fait, il y a un Spider-Man 4 qui va sortir en 2023. En même temps. Alors voilà, donc lui, il joue le rôle de Nathan. C'est un acteur britannique, hein, on le sait, Tom Holland. Et puis Mark Wahlberg joue le rôle de Sully. C'est un acteur américain, un grand acteur aussi. Hein. Et on a Sophia Taylor Ali, on a Tati Gabriel, on a Antonio Banderas. Alors lui, c'est un acteur espagnol et c'est lui qui joue le vilain Moncada. Vilain, on ne sait pas en fond, parce qu'il est persuadé que c'est sa famille qui doit hériter. Donc en même temps, il a ça dans la tête. Bon, hein, bon, le méchant qui n'est pas tout à fait méchant, mais bon, Moncada. Eh oui, c'est lui. Alors, c'est quand même... la sortie, normalement, était prévue en juillet 2021. Hein. Et finalement, elle arrive en février 2022. Ben, c'est le coronavirus, bien entendu. On ne le dit même plus, parce qu'on le sait. Alors, il y avait beaucoup d'acteurs hein, qui voulaient avoir le rôle de Sully, de Mark Wahlberg. Il y avait Woody Harrelson qui aurait voulu avoir le rôle. Matthew McConaughey aussi, qui aurait bien aimé. Ben oui, bon, ben, c'est Mark Wahlberg qui a gagné. Voilà. Et Tom Holland, alors lui, il nous dit qu'il a trouvé le tournage d'Uncharted plus intense que ceux de Spider-Man. Mais il a pris, dit-il, au fur et à mesure du processus, beaucoup de plaisir à l'interpréter. Et il a même fait quelques cascades dont il est très fier, dit-il. Parce que là, il y en a des cascades. Hein. Alors le budget, ben, le budget, c'est 120 millions de dollars quand même. Hein. C'est le plus cher réalisé par Ruben Fleischer. Oui, c'est quand même... Alors là, effets spéciaux et cascades garantis dans ce film. Si vous aimez, alors là, vous en avez, mais vraiment pour votre argent. Là, hein, de là. C'est sûr. Et alors, on peut lire aussi en même temps, la fortune sourit aux audacieux. Ouais. Bon, peut-être, après tout. Uncharted. L'action, l'action, l'action. 1h55.
Uncharted. Et nous continuons avec La vraie famille de Fabien Gorjard.
Oui, Fabien Gorjard. La vraie famille, oui, c'est un drame français. Alors, Fabien Gorjard, réalisateur, scénariste français, il a 46 ans, il a 9 ans de carrière, il a 6 tournages à son actif. Alors ça, c'est son deuxième long métrage de fiction. Il a 5 prix pour La vraie famille, plus 3 nominations au Festival du film francophone d'Angoulême 2021. Il a un Valois, le Valois du jury, il a le Valois de la meilleure actrice, je vais la nommer, c'est Mélanie Thierry qui a eu son Valois. Et il a le prix du jury, prix du public, prix des étudiants au Festival de Valenciennes. Ce film a été très bien accueilli, comme vous le voyez, 1h42, je ne sais pas si je l'avais dit. Donc, on a l'histoire, c'est l'histoire d'Anna, 34 ans, qui vit avec son mari et ses deux petits garçons. Et Simon, il y a les deux petits garçons qui sont à eux, et il y a Simon, un enfant placé chez eux par l'assistance sociale depuis l'âge de 18 mois et qui a désormais 6 ans. Un jour, le père biologique de Simon exprime le désir de récupérer la garde de son fils. C'est un déchirement pour Anna, qui ne peut se résoudre à laisser partir celui qui l'a toujours appelé maman. Mais Anna sait qu'elle doit aider Simon à réintégrer sa vraie famille. Donc on a Mélanie Thierry qui joue Anna. On a le père biologique, c'est Félix Moati, qui s'appelle Eddie dans le film, et qui est le fils du réalisateur et journaliste Serge Moati. Ah, c'est pas un secret. Hein. Et puis on a dans le rôle du mari, Driss, le mari d'Anna, Mélanie Thierry, on a Liès Salem, excellent acteur également. On a Gabriel Pavy qui joue le rôle de Simon, c'est son premier rôle, ce petit bonhomme. On a Florence Muller, on a Pascal Rénéric, on a Dominique Blanc, ouh, grande comédienne Dominique Blanc. C'est un joli casting, vraiment. Alors bon, là, Fabien Gorjard, ben oui, on avait eu, qu'est-ce qu'on avait eu? On avait eu Diane à les épaules. C'était en 2017, Diane à les épaules, qui avait une nomination aussi au Festival du premier film d'Annonay en 2018, hein, Festival international, hein, premier film hors compétition, avec Clotilde. M. Fabrizio Roggiani. Alors, Roggiani, Fabrizio, on va le revoir souvent, lui, chez Fabien Gorjard. On l'avait déjà vu, d'ailleurs, dans un village français. Il joue le rôle de Marcel Larcher. Sûrement que vous avez peut-être vu cette série, soit en entier, soit quelques épisodes. Hein. Eh bien, il était Marcel Larcher, cet acteur Fabrizio Roggiani. C'est un acteur belge. Au fait. Voilà, donc La vraie famille, c'est quand même... ce que nous dit le réalisateur, c'est qu'en parlant de sa mère, il nous dit « Ma mère, elle, n'avait peut-être pas mesuré l'implication émotionnelle de cette fonction particulière quand on prend des enfants chez soi, hein, parce que il s'est un peu référé à sa propre histoire, c'est-à-dire que quand il était petit, sa famille a accueilli un enfant qui restait chez eux de 18 mois à 6 ans, comme dans le film. Donc il dit que sa mère n'avait pas mesuré quoi, l'implication émotionnelle. Le seul conseil qu'elle a reçu des assistantes familiales, c'était aimer cet enfant, mais ne l'aimer pas trop. Le fait est que, nous dit-il, que cette expérience nous a tous beaucoup marqués dans la famille. Oui, c'est une expérience qui n'est pas banale quand même. Alors au début du film, le réalisateur a instauré un petit suspense concernant Simon, le petit Simon, que l'on pourrait penser malade. En fait, ce n'est qu'à la 12e minute que l'on comprend qu'il est placé. Il nous dit que cette incertitude est pensée pour placer le spectateur immédiatement, le plus rapidement possible, dans cette famille qu'il ne connaît pas. Comme dans la vie, vous rencontrez des gens sans posséder toutes les clés. Alors, il nous dit qu'il voulait qu'on rentre dans cette cellule familiale et qu'on en comprenne la structure pas à pas. Cette photo de famille se précise petit à petit. D'une manière générale, je voulais, nous dit le réalisateur, qu'on comprenne que Simon y tient une place à part. Ce qu'on peut dire sur ce très joli film, La vraie famille, Mélanie Thierry est assez extraordinaire, effectivement. Je ne suis pas surprise qu'elle ait reçu ce Valois de la meilleure actrice à Angoulême. Et La vraie famille.
La vraie famille. Et maintenant, ça va être Les affluents de Jesse Mitelli.
Oui, Les affluents. Alors, c'est... Oui, alors Jesse Mitelli, Jesse. C'est Jesse, oui. Jesse Mitelli. C'est un réalisateur scénariste français qui a d'abord été assistant et producteur sur des courts et des longs métrages. Il a participé à la distribution en salle des DVD, des Blu-ray, de grands classiques du cinéma. Voilà comment il a commencé sa carrière au cinéma, Jesse Mitelli. Et il a réalisé Les affluents, donc, fin 2019, début 2020. C'est son premier long métrage entièrement tourné au Cambodge, Les affluents. C'est un drame cambodgien et français qui dure 1h22. Nous sommes aujourd'hui à Phnom Penh. Alors, Phnom Penh, c'est la capitale du Cambodge. Hein. Il y a quand même 2,282 millions d'habitants. Hein. C'est une ville assez importante. Donc, cette Phnom Penh est aspirée par les... Nous sommes aspiré par les lumières rutilantes de la ville. Et Sangsa, Ti et Firoum, ce sont trois jeunes garçons en quête d'émancipation qui voient leur rêve de vie facile se télescoper à une société qui oscille entre archaïsme et modernité. C'est une photographie de la jeunesse cambodgienne. Trois portraits aux accents queer et naturalistes, enfin réalistes, hein, qui questionne les attentes et les désirs d'une génération. Alors dans les rôles, on a Sangsa Sek, il a le même prénom que le personnage du film. Enfin, elle a le même prénom, pardon, Sangsa, c'est une jeune cambodgienne, une actrice cambodgienne. On a Firoum Yang aussi dans le rôle de Firoum. On a Riti Rom dans le rôle de Ti, et on a Lek Van dans les rôles principaux. Ce sont tous des acteurs cambodgiens. Alors, le film est sélectionné au Festival de Cannes, sélection ACIDE. L'ACIDE, hein, c'est l'association des cinéastes engagés, hein, l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion, ACIDE. Et puis, il a été sélectionné aussi au Festival international du film de Busan. Alors, Busan, c'est une ville portuaire qui se trouve en Corée du Sud, hein, pour situer. Donc, c'est un film qui a été très bien reçu. Très, très bien reçu par les critiques, dans les festivals aussi. Alors, je disais que c'est une photographie de la jeunesse cambodgienne aux accents queer. Alors, queer, quoi. En anglais, ça signifie bizarre, inadapté. Ça s'adresse aux personnes gays, lesbiennes et bi ou trans, quoi. Voilà. Donc, c'est sur cette jeunesse, entre autres, que Jesse Mitelli s'est penché. Cette jeunesse cambodgienne qui cherche sa vie, qui cherche à essayer de pouvoir mener une vie à peu près équilibrée entre l'archaïsme du pays et la modernité. Ça ne doit pas être toujours facile. Eh oui. Le Cambodge. Les affluents.
Ensuite, nous retrouvons un film de Laura Samani qui s'appelle Piccolo Corpo.
Oui, Piccolo Corpo. J'ai commencé Piccolo, Saxo et compagnie, c'était pas ça. Mais ça donnait envie quand même, hein, Piccolo. Mais non, c'était Piccolo Corpo. Eh bien oui, drame historique, c'est italien, c'est français, c'est slovène. Ça dure 1h29. Laura Samani, tu l'as dit, réalisatrice, scénariste italienne, elle a 33 ans. Et oui, c'est titré d'ailleurs, Piccolo Corpo, une fable pure, un frisson transalpin. Impressionnant, passionnant. Il y a 4 nominations à la Semaine internationale de la critique en 2021 pour Laura Samani. Il y a une nomination au Festival de Cannes 2021 et le film est nommé Caméra d'or, toujours pour Laura Samani. Ça, on est en Italie en 1900. Le bébé de la jeune Agatha est mort-né et ainsi condamné à errer dans les limbes. Il existerait un endroit dans les montagnes, où son bébé pourrait être ramené à la vie le temps d'un souffle pour être baptisé. Agatha entreprend ce voyage et elle rencontre Lynx qui lui offre son aide. Ensemble, ils se lancent dans une aventure qui leur permettrait de se rapprocher du miracle. Dans les rôles, on a Céleste Sescluti, ce sont des actrices italiennes, et Ondina Quadri. Céleste Sescluti, c'est Agatha, et Ondina Quadri, c'est Lynx, le rôle de Lynx. Ben, c'est-à-dire que c'est en 2016 que Laura Samani a découvert qu'il y avait à Trava, dans sa région, le Frioul, Vénétie, Julienne, au nord, c'est le nord-est de l'Italie, elle a découvert qu'il y avait un sanctuaire qui, jusqu'au XIXe siècle, aurait été un lieu de miracle particulier. On disait que les enfants morts-nés pouvaient y revenir à la vie le temps d'un souffle. De tels miracles, nous dit-elle, permettaient le baptême de ces enfants morts-nés, sinon condamnés à être enterrés sans sépulture chrétienne, comme on enterre les chats. Et sans baptême, il leur était impossible de recevoir un prénom. Leur âme était condamnée à errer éternellement dans les limbes. Ce genre de lieu, appelé à répit ou sanctuaire du souffle ou de la trêve, existait partout dans les Alpes. Elle nous dit qu'en France, on en comptait presque 200. Il est surprenant que leur histoire soit pratiquement inconnue malgré l'importance du phénomène. L'histoire de ces miracles s'est frayée un chemin dans un coin de mon esprit et s'y est ancrée. Voilà ce que nous dit Laura Samani à propos de son film Piccolo Corpo. À voir si ce thème vous intéresse, parce qu'il est bien fait. Elle fait de belles choses. Elle a surtout d'ailleurs réalisé des documentaires, hein, Laura Samani, 2013-2016, 2019, des courts-métrages également. Elle connaît bien son boulot en tout cas. Piccolo Corpo.
Et maintenant, c'est La jungle est dans mon jardin de Enrico Giordano.
Eh oui, La jungle est dans mon jardin. Le monde étranger de la jeunesse et de l'espoir. Non, d'ailleurs, c'est pas ça. On va commencer par la rencontre. C'est la rencontre entre deux mondes. Celui d'Atsadeh, une jeune émigrante éthiopienne qui ne parle pas et ne comprend pas bien le français. Elle vit au jour le jour de combine en espérant amasser suffisamment d'argent pour traverser la Manche et rejoindre sa sœur installée à Londres. Le monde de l'étranger, de la jeunesse et de l'espoir, sans cesse chahuté par les vicissitudes de la vie. Puis celui d'Henri, ancien haut gradé dans l'armée, qui vient tout juste de délivrer sa femme du fardeau d'une longue et douloureuse maladie. Veuve désormais, il se heurte à la vacuité de son existence. Lui, c'est le monde de la traduction, de la vieillesse, de la résignation amère dans l'attente du trépas. Ce vieil homme aux accents paternalistes, cherchant la rédemption, recueillera Atsadeh, meurtri, chez lui. Entre ces deux marginaux que rien ne prédestinait à se rencontrer, va se nouer une relation indéfectible. Alors c'est Enrico Giordano, oui, réalisateur, scénariste, producteur français, qui a réalisé ce joli film. Alors on a Elodie Atsadeh dans les rôles, Daniel Jenny, Sidiki Bakaba, Nino Rocher dans les rôles principaux. On lui doit, Enrico Giordano, on lui doit en 2011 un drame, Maître du monde, avec, c'était Boris Benet qui était l'acteur. Alors Boris Benet, pour le situer, c'est un acteur, c'est un mannequin également. Il est mannequin, notamment chez Givenchy, si je me souviens bien. Voilà, c'était l'histoire d'un courtier qui avait la quarantaine et qui partait en quête de rédemption afin de se retrouver seul face à lui-même. Maître du monde, ça, qui avait été plutôt bien reçu, 1h12. Là, on a un film d'1h18, La jungle et mon jardin. C'est une curiosité intéressante.
Et nous allons maintenant poursuivre avec notre film, notamment The Power de Corina Faith.
Oui. The Power, c'est la puissance. Corina Faith, oui, c'est une réalisatrice, scénariste, créatrice britannique. C'est son premier long métrage, en fait. C'est fantastique, c'est du thriller, c'est de l'épouvante, de l'horreur. Alors, en tout cas, c'est un film britannique d'1h33. Ça se passe à Londres en janvier 1974. Les mineurs sont en grève. Le Royaume-Uni se prépare à d'importantes coupures d'électricité. Val, une infirmière débutante, arrive pour son premier jour de service au sein de l'équipe de nuit d'un hôpital délabré, la majorité des patients et du personnel ayant été évacués vers un autre hôpital. Elle se retrouve presque seule dans ce bâtiment délabré. Mais derrière ses murs se cache un lourd secret qui va contraindre Val à affronter ses peurs les plus profondes et à se confronter à une force maléfique. Dans les rôles, on a Rose Williams qui joue Val, on a Emma Rigby, Charlie Carrick, Paul Anthony Barber. C'est titré, Corina Faith ne surprend pas, mais elle s'impose en douceur. Et la bande-son de son film déboîte. Et oui, la lumière ne vous sauvera pas, voilà ce qu'on peut lire sur The Power. Dites les amateurs là, de thriller et d'épouvante, ouais, il est très bien fait ce film, il est pour vous. Il est pour vous.
Après, ça va être After Blue, Paradisal de Bertrand Mandico.
Oui, Bertrand Mandico, oui. Réalisateur, scénariste, acteur français. Il a pris 13 nominations, il a 15 ans de carrière, donc pas mal de courts-métrages hein, quand même dans tous ses tournages. Là, il en a 13 tournages. Et After Blue, Paradis sale, entre parenthèses, hein, le titre. Il y a une nomination au Festival du film fantastique de Gérard Maire 2022. C'est le long métrage hors compétition. Ça dure 2h07. C'est donc de la science-fiction, du thriller, du fantastique français. Dans un futur lointain, sur une planète sauvage, la planète Blue, Roxy, un adolescent solitaire, délivre une criminelle ensevelie sous les sables. À peine libérée, cette dernière sème la mort. Tenue pour responsable, Roxy et sa mère Zora sont bannies de leur communauté et condamnées à traquer la meurtrière. Elles arpentent alors les territoires surnaturels de leur paradis sale. Et on a Elina Lovenson dans le rôle de Zora. Zora, c'est la mère. C'est une actrice américano-roumaine. On a Paula Luna qui joue le rôle de Roxy, c'est une actrice allemande. On a Vina Laponce, on la connaît, c'est une actrice française. On a Agata Buzek, c'est une actrice polonaise. Camille Rutherford, elle est franco-britannique, Camille Rutherford. On a Anaïs Thomas, Claire Duburc dans les rôles principaux. C'est titré quand même sidérant, passionnant, ahurissant, une bombe. Là, ce qui est titré par les critiques. Alors, le film a été présenté dans beaucoup de festivals. Hein. Locarno, Austin, Sitges, c'est le prix du meilleur film fantastique d'ailleurs. Sitges, prix spécial du jury. Voilà. Locarno, c'est le prix, c'est le prix Fipretschi de la critique internationale. Voilà, un film qui est très très bien reçu. Science-fiction, fantastique, thriller. Pour les amateurs, il n'y a pas de doute.
Et on va terminer rapidement avec un documentaire d'Alice Diop qui s'appelle
oui.
Nous.
Donc, oui, Nous, 1h57. Alice Diop, réalisatrice, scénariste, actrice franco-sénégalaise. Elle a 43 ans, 14 ans de carrière, 9 tournages à son actif, 2 prix, 2 nominations. On lui doit la mort de Danton, d'ailleurs, en 2011. C'était une histoire de banlieue. Et puis, elle a eu le prix des bibliothèques, d'ailleurs, pour ce film. Et puis en 2016, on lui doit le documentaire court-métrage Vers la tendresse, qui a eu le César du meilleur court-métrage en 2017. Alors là, c'est quoi, nous, une ligne, le RER B, traversée du nord-est, du nord, pardon. Non, c'est la traversée du nord vers le sud, la ligne, le RER B. Un voyage à l'intérieur de ces lieux indistincts qu'on appelle la banlieue. Des rencontres, une femme de ménage à Roissy, un ferrailleur au Bourget, une infirmière à Drancy, un écrivain à Gif-sur-Yvette. Le suiveur d'une chasse à cour en vallée de Chevreuse et la cinéaste qui revisite le lieu de son enfance. Chacun est la pièce d'un ensemble qui compose un tout impossible, nous. Nous tous. Ah, si on pouvait être nous tous, ensemble, sans différence, sans rien. Ensemble, nous. C'est son rêve à Alice Diop, nous, ce nous.
Très bien, eh bien, merci beaucoup Anne pour toutes ces sorties cinématographiques. On te souhaite une très bonne semaine et on se retrouve mercredi à 11h pour une nouvelle conversation autour du cinéma.
Et oui, merci Damien aussi, hein. Merci pour tes bandes annonces, merci pour ton aide, ton soutien psychologique, c'est ça le soutien. Et puis à vous mes chéris, bah, écoutez, passez une excellente semaine. Hein, soyez heureux, voilà, le plus possible, hein, voilà. Puis vivez la journée entièrement, carpe diem, on le dit, on le répète. Hein. Et puis n'oubliez surtout pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Beaux yeux, tu sais.